Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité en ce lundi 18 avril 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a critiqué les États arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël, rappelant que leur interaction avec ce régime ne suffirait pas à garantir leur sécurité. La police israélienne prend d'assaut l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa et au Burkina Faso, deux policiers ont été tués par l'explosion d'un engin explosif. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le vice-président de l'organisation de la zone franche d'Anzali, Amin Ofori, a déclaré que la mise en œuvre du corridor maritime Chine-Kazakhstan-Iran menant au port de la Caspienne et l'utilisation du transport combiné avait réduit à moins de moitié le temps de transport des marchandises de la Chine vers l'Iran. Se référant aux avantages du port de la Caspienne, Amin Ofori a déclaré que des factures avaient transformé le port de la Caspienne en un port de troisième génération, dont l'existence d'un arrière-pays approprié, la possibilité de laisser accoster des navires à grande capacité de charge, ainsi que la présence de deux villes industrielles près du port. La première est en service et la seconde est en phase de construction. Qualifiant le port d'Anzali et celui de la Caspienne de porte d'entrée vers l'Eurasie, il a ajouté « La réduction de la voie de transport des matières premières et des produits des usines du complexe portuaire d'Anzali, ainsi que la proximité des réservoirs de vrac pour stocker des liquides dans ce complexe compte parmi des facteurs logistiques permettant de réduire le temps et le coût du transport des marchandises à travers le complexe portuaire de la Caspienne. En reliant une ligne de chemin de fer au port de la Caspienne et en achevant le quai, est en construction, le coût du transport des marchandises depuis ce port vers toutes les régions du pays sera diminué et la voie sera ouverte au développement du transit et du transport, a-t-il précisé. Selon Amin Ofori, l'augmentation de la capacité logistique du port de la Caspienne et le lancement de lignes maritimes figurent parmi d'autres mesures de l'organisation de la zone franche d'Anzali pour accroître le commerce et le transport maritime. Notant la réduction des coûts de chargement et de déchargement dans ce port de troisième génération pour encourager des commerçants, il a noté. Depuis la création du port de la Caspienne en 2018, 1,9 million de tonnes de produits de base ont été importées et exportées par 447 navires par l'intermédiaire du complexe portuaire de la Caspienne. Il a ajouté que des produits stratégiques d'un volume de 8 150 conteneurs avait été importé en Iran par le biais de la section iranienne de l'initiative chinoise, une ceinture, une route, ainsi que plus de 350 conteneurs EVP de produits de l'Iran avaient été exportés à travers le même itinéraire vers la Chine. En raison du faible coût du transport maritime par rapport aux autres moyens de transport, la zone franche d'Azadi a équilibré le surcoût du transport combiné, a-t-il souligné. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bareri Khani, a critiqué dimanche 17 avril certains États arabes pour avoir normalisé leurs relations avec Israël, affirmant que leur interaction avec Israël ne suffirait pas à garantir leur sécurité. L'histoire a prouvé que les agressions et les occupations ne conduisaient jamais à l'ordre, à la stabilité ni au calme, a indiqué M. Bareri lors d'une réunion avec des commandants de l'armée iranienne, selon le site officiel du ministère des Affaires étrangères. La Jordanie a déclaré dimanche 17 avril qu'Israël portait l'entière responsabilité des graves répercussions de l'escalade des tensions dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa de Rots, selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères. Les tentatives continuelles d'Israël pour modifier le statu quo historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa représente une violation dangereuse du droit international et sape tous les efforts visant à maintenir le cessez-le-feu, la paix et la sécurité régionale, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Jordanie, Aïssam Abou El-Foul. Condamnant Israël pour avoir lancé un raid contre la mosquée Al-Aqsa et expulsé les fidèles de son enceinte, Aïssam Abou El-Foul a exhorté la communauté internationale à prendre ses responsabilités et à agir immédiatement pour faire pression sur Israël afin de l'obliger à mettre fin à ses pratiques. L'enceinte de la mosquée Al-Aqsa est un site sacré pour les musulmans et pour les juifs. La mosquée est actuellement sous la protection de la famille royale jordanienne. La police israélienne a pris d'assaut dimanche l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Rotsest et au moins 10 personnes ont été blessées lors des affrontements qui ont suivi. Dimanche matin, les forces de la police israélienne ont dispersé les Palestiniens de la grande place à l'extérieur de la mosquée, tandis que des dizaines de personnes sont restées à l'intérieur, selon un communiqué publié par la police. Après, des Palestiniens ont signalé des affrontements à l'extérieur de la mosquée, au cours desquels au moins 10 personnes ont été blessées par les forces de sécurité israéliennes, selon un communiqué publié par le Croissant Rouge palestinien. L'enceinte de la mosquée Al-Aqsa est un lieu sacré pour les musulmans et les juifs. Elle est située à Rotsest, un territoire occupé par Israël en même temps que le reste de la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Israël l'a annexé peu de temps après, une décision qui n'est pas reconnue par la majorité de la communauté internationale. Vendredi, au moins 152 Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec la police israélienne dans le complexe. L'escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens au cours des 3 dernières semaines, y compris 4 attentats meurtrières en Israël, dont certains perpétrés par des citoyens palestiniens d'Israël, a fait craindre un retour à un conflit plus large. 2 policiers ont été tués samedi 16 avril par l'explosion d'un engin explosif dans le nord du Burkina Faso, a annoncé dimanche la police nationale dans un communiqué. Selon la même source, c'est une équipe du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou qui a été victime de cette explosion. Alors qu'elle se rendait sur le site minier de Taparco pour une relève, l'un des véhicules de leur convoi a sauté sur un engin explosif à hauteur du village de Ouanobian, dans la région du centre-nord, a indiqué le communiqué. 2 éléments du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou ont été tués et 3 autres blessés ont été évacués d'urgence à Ouagadougou pour y être soignés, a-t-il précisé. La mine de Taparco a été fermée ces derniers jours à cause de l'insécurité, selon ses responsables. Le Soudan a réaffirmé dimanche ses revendications territoriales sur le district contesté d'Al-Fashaga, à la frontière avec l'Éthiopie. Al-Fashaga est une terre soudanaise, a déclaré le ministre des Affaires étrangères par intérim, Ali Al-Sadir, à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Hanna Tété, durant la visite de celle-ci au Soudan, selon un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères. La négociation et le dialogue sont cependant les meilleurs moyens de régler ce différend, a déclaré le ministre. La zone frontalière Soudan-Éthiopie est le théâtre de tensions et d'escarmouches croissantes entre les deux parties depuis septembre 2020. En décembre 2020, l'armée soudanaise a annoncé avoir déployé d'importants renforts le long de sa frontière avec l'Éthiopie et avoir repris ce qu'elle qualifie de terres confisquées. La NOC de Libye a déclaré dimanche l'état de force majeure dans le champ pétrolifère d'Elfi, après que des manifestants ont provoqué la fermeture du plus grand champ de pétrole du pays. Un groupe de manifestants a en effet pris d'assaut le champ pétrolifère et a forcé les travailleurs à arrêter la production, a indiqué la NOC dans un communiqué. Exploité par le géant italien de l'énergie Eni et par la NOC, le champ pétrolifère Delfine produit environ 70 000 barils bruts par jour sur un total de 1,2 million de barils par jour dans l'ensemble du pays, selon les chiffres du gouvernement. Le pétrole et le gaz représentent une source principale de revenus pour la Libye. Le secteur a cependant souffert au cours des dernières années des conflits armés et des fréquentes fermetures des champs et des ports pétroliers. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Al-Aqsa, Rabat condamne fermement l'entité sioniste. Est-ce le début d'un changement? Le Maroc, dont le monarque préside le comité Al-Rotsal Sharif de l'Organisation de coopération islamique, a condamné dans une déclaration la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par les forces d'occupation israéliennes. La même déclaration dénonce de surcroît la fermeture par les forces israéliennes des portes de la mosquée Al-Aqsa et l'attaque contre des fidèles sans défense à l'intérieur de la mosquée et dans ses cours extérieures. Puis le communiqué signé Bourita, le même ministre qui, le 22 mars, s'était rendu au sommet du Negev déposer une gerbe sur la tombe de Ben Gorion, déclare que le royaume considère que cette attaque flagrante et systématique, provocation pendant le mois béni du Ramadan et cette violation du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et sa place au sein de l'Oumma islamique sont de nature à attiser les sentiments de haine, de l'extrémisme et à détruire les chances de relancer le processus de paix dans la région. Est une prise de conscience éphémère de Rabat de la gravité de la situation ou s'agit-il dans ce communiqué d'un coup fourré anti-Israël? Plus d'un observateur estime que cette condamnation, quelque peu décalée, par rapport au lien contre nature tissé depuis la normalisation entre Rabat et l'entité sioniste, porte les signes d'une angoisse réelle dans la mesure où la situation tend à se détériorer très rapidement au Maghreb. Dimanche dernier, deux camions et les commerçants algériens à bord ont été attaqués au Sahara occidental et l'Algérie en a accusé l'armée de l'air marocaine. À raison. Sauf que train où vont les événements, ce serait plutôt Israël qui agirait. Des contrats de vente de drones à vrac, des accords militaires de nature aérienne par-ci, par-là, une agence aéronautique sioniste implantée dans le ciel du Maroc ou encore des bases militaires israéliennes implantées dans la région du Sahara. Rabat commence-t-il à s'interroger sur le bien fondé d'un accord abrahamique qui ne lui fait que du tort? De tendre ses liens avec son grand voisin, de lui faire perdre ses ressources énergétiques. Juste après la récente attaque au drone, l'Algérie a condamné le Maroc de prendre pour cible des commerçants et autres civils dans les territoires du Sahara et cette fois d'étendre son action à la Mauritanie. Concernant les motifs de cet événement, l'envoyé spécial algérien est même allé jusqu'à dire L'objectif non dissimulé de l'occupant marocain est de faire entrave au commerce entre l'Algérie et la Mauritanie, notamment depuis la visite du président mauritanien en Algérie et la conclusion de l'accord intergouvernemental portant sur la réalisation de la route devant relier le sud de l'Algérie à la ville mauritanienne de Zourat. Tout le monde, y compris le Maroc, sait pertinemment que ce coup, c'est Israël qui l'a souhaité pour cause d'un lien Algérie-Mauritanie propre à barrer la route à l'extension du sionisme, non seulement au Maghreb, mais encore au Sahel. Dès lors, la question est la suivante. Rabat ira-t-il jusqu'à faire la guerre à son voisin pour satisfaire l'allié sioniste? Car quel sera le résultat naturel de la répétition de ces frappes si ce n'est le fait de mener l'Algérie à améliorer la formation des forces armées, à se mettre à l'heure des drones et à riposter? Dans ce cadre, le ministère algérien de la Défense a d'ailleurs insisté dans un communiqué sur l'adaptation continue de la formation des forces armées aux évolutions géostratégiques survenues sans cesse sur les scènes régionales et internationales. Une chose est sûre. Par ses crimes commis contre Al-Aqsa, auprès de quoi s'est engagée officiellement la couronne marocaine, Israël fournit la meilleure occasion qui soit pour que Rabat revienne sur les accords d'Abraham. C'est maintenant ou jamais, avant qu'il ne soit trop tard.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Les tensions restent vives dans les territoires occupés palestiniens ce vendredi à l'aube. Des militaires israéliens se sont attaqués aux fidèles palestiniens sur l'esplanade des mosquées dans la Noble Route. Près de 200 Palestiniens ont été blessés et des centaines d'autres ont été arrêtés par l'armée d'occupation israélienne. En effet, depuis plusieurs semaines, les Palestiniens continuent de protester et de se soulever en effet contre l'occupation israélienne. Et cela en faisant des opérations contre les sionistes. Dans ce contexte, les différents endroits de la Cisjordanie occupée, en effet, ont été le théâtre de manifestations, de protestations et d'opérations anti-israéliennes. Et Jenin, où l'entité israélienne se voit confrontée à un défi sécuritaire qui lui reste en effet totalement inconnu, a été en quelque sorte le quartier général de ce soulèvement armé contre l'occupation israélienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les tout derniers développements dans les territoires occupés palestiniens. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Peu de commentateurs politiques qui suivent depuis presque 20 jours l'extraordinaire descente aux enfers de l'entité israélienne, dont l'armée de terre, la police, la force de sécurité, ciblée par des attaques éclairs à domicile et parfaitement préméditées, se démène tant bien et mal pour éloigner l'épicentre de la guerre des rues de Tel Aviv, de Beersheba, de Haïfa ou encore du port gazier d'Ashkelon et le replacer à Jenin et à Khan Younes. Entre 10 et 12 avril 2022, presque un an après que les premières salves de roquettes et de missiles Ayash 250 Qassem A-120 se furent abattus contre Ashkelon, sa base militaire Zikim et surtout sa pipeline qui transite le gaz volé palestinien depuis Tamar vers Eilat, en passant par Beersheba, ce point ultra chaud par où a commencé le 23 mars la première des opérations commando à l'arme nouvelle anti-Israël. Ce même Ashkelon a été le théâtre de deux événements largement censurés, mais parfaitement symptomatiques de ce que Nasrallah avance. Le 10 avril, la pressionniste a fait état du meurtre d'un colon, abattu par un officier de la brigade militaire sioniste alors qu'il courait dans sa direction pour lui arracher son M16. Face à une débâcle du renseignement sioniste, incapable de percer autant de mystères qui entourent les énigmatiques attaques commando anti-Israël de ces derniers jours, et à une résistance palestinienne qui s'est entièrement hezbollahisée et dont les actions dépassent le Shin Bet, le Mossad réunit Gantz en appelle aux Américains et aux Golfiens pour qu'ils lui portent secours. Quel constat donc tirer de ces deux incidents produits quasi simultanément à l'issue de 20 jours totalement fous que vit Israël, assaillis d'attaques menées par des armes automatiques de conception israélienne et qui se répandent du nord au sud en passant par le centre Tel Aviv où le commandant Rad a mis au pas en quelques minutes un bataillon de 1000 soldats et forces spéciales israéliens, lequel bataillon a mis 9 heures avant de lui tomber dessus à tout hasard et à quelques 3,5 miles du lieu de l'opération. Le constat plus simple serait que cette guerre hybride, royalement postmoderne que l'armée patriotique de la Palestine a commencée, voici peu et à l'approche du premier anniversaire de l'épée de Rhodes contre Israël, et qui n'implique pour la première fois ni missiles, ni drones, ni métro de gaz, et qui enlève de la sorte toute initiative de riposte à l'adversaire, en est dans sa rapide et terrifiante évolution au stade de dresser les colons contre l'armée sioniste.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur Dortiguier, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Colabandé, bonjour à tous les auditeurs et bien sûr à notre ami Michel.
On s'y attendait peut-être, alors, le point culminant des évolutions de ces dernières semaines. Alors, les violences commises par l'entité d'occupation israélienne ce matin sur l'esplanade des mosquées, monsieur le professeur, où des centaines de Palestiniens ont été blessés, arrêtés. Alors, est-ce que cette répression violente signifie autre chose qu'une fuite en avant de la part de l'entité d'occupation israélienne qui est aujourd'hui plus que jamais dans l'impasse sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la politique intérieure?
Je pense qu'en effet, l'autorité israélienne est passée par ce mouvement de masse qui, comme vous l'avez fait remarquer dans la présentation, n'a rien à voir avec des lancements de missiles ou autres. Non, il s'agit là d'un mouvement populaire organisé et surtout unis, qui rassemble toutes les factions politiques. Donc ça, c'est un progrès, disons, irréversible. Les Israéliens ont l'habitude de vivre séparés des Palestiniens en les méprisant, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont au milieu du peuple palestinien. Et ceci, ils ne le comprennent pas depuis 1949, parce qu'ils ont été eux-mêmes illusionnés par leur orgueil, illusionnés aussi par l'aide que leur apportent les sionistes de l'étranger, beaucoup plus important que ceux qui vivent en Israël, mais qui, eux, ne trempent pas leurs pieds, disons, dans le sang des Palestiniens et les font mourir de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de très important. Et là, les sionistes qui sont à l'intérieur d'Israël comprennent bien que leur situation est impossible à tenir dans la mesure où ils ne se livrent pas, disons, à des concessions, au moins d'abord des concessions, et reconnaissent, disons, le caractère impossible d'un État dans l'État. On ne peut pas vivre avec des Palestiniens, contre les Palestiniens, en excluant les Palestiniens. Non, c'est une contradiction qui a déjà été soulignée lors de la naissance de l'entité sioniste en 1949. Aujourd'hui, c'est la réalité qui l'emporte sur les illusions. Et là, je dois dire que nous avons affaire, pour reprendre la métaphore, à un océan, disons, de violence contre les Israéliens. Cet océan est un océan naturel, qui n'est pas du tout le propre de quelques factions. Il s'agit là d'un soulèvement, disons le mot, national et populaire.
Merci infiniment pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour, merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, à votre équipe et au professeur Dortiguet. Et bien entendu à vos téléspectateurs. Merci. Nous assistons en fait en Palestine à l'échec d'une stratégie qui était celle de la liquidation lente et programmée de la résistance palestinienne. Vous savez que mon engagement pour la Palestine a presque un demi-siècle. Je vais fêter mes 50 ans de vie engagée l'année prochaine. J'ai connu l'époque flamboyante de la résistance palestinienne. C'était l'époque du FPLP. On voyait des foules considérables à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Berlin, réunies pour soutenir les Palestiniens. Et on voyait une résistance qui combattait militairement avec l'aide de la Syrie. C'était celle d'Hafez al-Assad à l'époque, le père de Bachar et des Soviétiques. On la voyait combattre. Et puis petit à petit, on a vu le soutien se réduire. Il y a eu cette ignoble assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme qui était une arme psychologique en Occident. Et il y a eu la division de la résistance. Mais depuis 2 ans, on assiste de nouveau à l'émergence. Il y a des foules considérables en Occident qui se sont manifestées à l'occasion de la dernière guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Il y a surtout la résistance palestinienne qui est renée en Cisjordanie même, où on pensait l'étouffer, la grignoter à coups de colonies, fantoches, etc. Le grand plan des sionistes, n'oublions pas que ce sont les sionistes les plus radicaux qui sont au pouvoir en Israël, c'est-à-dire les héritiers du fascisme sioniste de Jabotinsky, les partisans des murailles d'acier d'Israël et du grand Israël, du Nil à l'Euphrate. Ces gens-là, soutenus par leurs complices américains, les républicains à la Donald Trump et les gens de l'AIPAC, ces gens, leur mauvais coup, leur lent étouffement de la résistance palestinienne a trouvé son échec. C'est ce qui se passe maintenant. On n'est plus seulement dans une révolution des pieds, on est une révolution qui est capable de s'opposer militairement. Et je soulignerai le rôle, pour conclure, de l'Iran. C'est l'inclusion de la résistance palestinienne dans l'axe de la résistance dont l'Iran est le cœur et l'âme qui a permis cela, cette renaissance de la Palestine.
Merci pour ces précisions, M. Michel, restez avec nous. M. Dortiguet, donc avec ce soulèvement généralisé du peuple palestinien, avec cet échec, comme disait M. Michel, de stratégie de liquidation de la résistance, avec ces opérations, cette guerre hybride, en effet, des différentes factions de la résistance contre l'occupation. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à une confrontation d'envergure, une confrontation à grande échelle, avec des conséquences, non seulement sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi sur toute la région?
Je pense aussi que, comme vous, que cette confrontation va s'étendre. Elle n'est pas du tout limitée, elle n'est pas locale. Elle est réellement une réaction d'ensemble de la région. Je crois que tous les pays arabes jusqu'à présent tous les pays chrétiens et musulmans ont, manifesté leur sympathie envers le peuple palestinien, leur aide. Mais là, il s'agit non pas d'une aide seulement, il s'agit d'une identification des combats qui durent, notamment en Syrie, au Liban, et avec justement le peuple palestinien. Cette osmose, si je puis dire, pour reprendre une image physique, cette identification, voyez-vous, est justement le point nouveau. Elle avait été annoncée par des géographes, autrefois par des historiens, des géographes, enfin, des gens qui sont, disons, des ethnologues, qui connaissent la région. Disons, le temps semblait, disons, écarter cette perspective. On parlait toujours des différences de régime, des différences entre le Hamas et l'OLP, par exemple. On disait le temps du PLP, comme disait M. Michel, est un temps qui est passé, etc. Nous assistons à des, bien sûr, à des luttes, mais en même temps à des trafics d'influence, tout ça. Or, ceci est faux. C'est le peuple lui-même, comme force, disons, qui intervient aujourd'hui. Et cette cette volonté populaire, elle est évidemment est un défi à la mort. Et ceci fait très peur aux Palestiniens, ou pardon, aux Israéliens, qui ne sont pas habitués à cela. Ils sont habitués à être soutenus, ils sont habitués, disons, à des combats particuliers, voyez-vous. Ils sont habitués à des opérations de destruction, mais pas du tout à affronter l'ensemble d'un peuple. Ceci a été annoncé pourtant dès 1949, et qui est d'ailleurs présent dès avant la guerre de 40, voyez-vous, la dernière guerre mondiale. Il y avait des insurrections en Palestine, il y avait des meurtres en Palestine commis par les islamistes et les habitants britanniques, par exemple. Or, ceci relève de la même essence, de la même nature. C'est un combat très ancien, il ne faut jamais l'oublier, surtout nos jeunes visiteurs. Ils doivent savoir que ces combats ont commencé dans les années 1920, voyez-vous. Et sont continus. C'est-à-dire, j'imagine qu'il s'agit d'un combat fait par mon grand-père, arrière-grand-père, etc. Voyez-vous, tout ceci est une continuité dans le temps. Et aujourd'hui, cette continuité dans le temps, elle se manifeste par une solidarité dans l'espace.
Merci encore, monsieur le professeur. Monsieur Michel, pour de nombreux observateurs et analystes, ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Cisjordanie occupée, c'est-à-dire la recrudescence des opérations anti-israéliennes et la conséquence logique et inévitable, en effet, de la persistance de l'occupation et des violences israéliennes dans cette zone palestinienne. Ceci étant dit, à quel scénario faudrait-il s'attendre? Est-ce que la confrontation va s'étendre? Est-ce qu'il faudrait en effet assister à une concertation, à une coordination de plus en plus étroite entre les différents fronts de la résistance, notamment palestinienne, contre l'occupation israélienne, et une résistance armée à l'instar de ce qui s'est passé l'année dernière avec notamment en effet le tir domicile contre une occupation qui est aujourd'hui arrivée à cette conclusion que justement la résistance palestinienne est bien déterminée, bien capable à riposter aux crimes israéliens.
Écoutez, moi je crois qu'on va vers une...
Allô?
Allô?
Monsieur Michel, est-ce que... Monsieur Michel... Est-ce que vous nous entendez?
Dès lors, ce qui s'est passé, la justice fait à un peuple qui n'a jamais été toléré, y compris par les nouvelles générations, va s'étendre. D'autant plus que la stratégie de l'axe de la résistance, elle s'étend sur tout le Proche-Orient.
Merci encore, Monsieur Michel. Monsieur Dortiguier, ces évolutions interviennent justement, qui sont d'ailleurs sans précédent depuis le début du mois de Ramadan, donc le dernier vendredi, comme vous le savez, le dernier vendredi du mois de Ramadan, la journée internationale de Quds. Quel sera l'impact de ces évolutions sur la prise de conscience de l'opinion publique internationale à l'égard du peuple palestinien et de l'oppression dont il est victime et qui, malheureusement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, est totalement passé inaperçu et soumise à un blackout total de la part des milieux politiques et médiatiques internationaux.
Il ne s'agit pas de répercuter par des manifestations, des déclarations, ce qui se passe en Orient. Mais je crois que les États, c'est très important, en Europe, tout au moins en particulier l'Allemagne aujourd'hui, qui reprend une certaine indépendance sur le plan politique, tireront des conséquences de cette insurrection continue. Vous savez, ce qui se passe en Palestine n'est pas ignoré en Europe, ni par l'opinion, ni par les gouvernements. Mais nous avons, des groupes de pression qui essaient vraiment de nous séparer ou de neutraliser, l'aide. Ou la compréhension, nous pouvons avoir du problème palestinien. Il faut donc, des réalités fortes. Ce qui se passe en Ukraine est, une sorte de marche d'avant, un conflit beaucoup plus généralisé, et les gens sont par là même sensibles à ce qui se passe, voyez-vous. Je crois que cette conjonction des deux événements n'est pas du tout exclusive. Je veux dire, cette conjonction ne peut que faire prendre conscience aux gens des liens qu'il y a dans le désordre mondial. L'affaire palestinienne est une affaire d'injustice. Voyez-vous. Et donc, les gens comprennent bien que l'opinion publique et les cadres des États, à commencer par les États-Unis aujourd'hui, qui ont abandonné, à mon avis, en grande partie, la politique insensée de M. Trump. Voyez-vous. Je crois qu'ils lâcheront, ou disons, s'éloigneront de les appels du sionisme à se maintenir. Je crois même que ceci ira si loin, je conclurai là-dessus, que de grandes parties de ceux dans le mouvement sioniste international qui se réclament d'Israël lâcheront Israël. Parce que ce qui leur importe à eux, ce sont, comme on dit, les bénéfices, mais non pas les sacrifices.
Merci encore, M. le professeur d'Ortiguier. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, alors... je vous pose la même question, d'une autre manière peut-être, c'est-à-dire, conjonction de l'affaire palestinienne et de la crise ukrainienne, et bien entendu, la révélation au grand jour de l'hypocrisie occidentale, notamment en matière des droits de l'homme. Quel constat tirez-vous justement, si vous établissez un parallèle entre ces deux affaires, notamment en matière des droits de l'homme?
Il y a surtout des conséquences géopolitiques au-delà de l'hypocrisie occidentale et des doubles langages. Le but de Vladimir Poutine, ce n'est pas de régler un problème régional avec l'Ukraine. C'est de l'aveu même de tous les analystes occidentaux, c'est de dynamiter le nouvel ordre mondial qui était imposé au monde entier à la fin de l'Union soviétique en 1990. Cette conséquence de cela est immense pour le Proche-Orient. Tout d'abord, il y a le fait que les pays qui étaient traditionnellement alliés des États-Unis, les Émiratis, les Qataris et les Saoudiens, ils sont engagés aujourd'hui dans une guerre économique qu'on appelle la guerre du gaz. Et dans cette guerre, ces puissances sont du côté du bloc de l'Est, ils sont du côté de la Russie et de l'Iran, et pas du côté des Américains. Ça a des conséquences importantes. Le plan américain de Donald Trump, qui était fait avec l'aile radicale des sionistes, qui était d'associer les pétroles d'Ashkenaz à la liquidation de la résistance palestinienne, évidemment, il est aujourd'hui obsolète. Les monarchies arabes, on l'a vu au sommet de Doha, des États producteurs de gaz, il y a un mois, ils ont refusé de s'engager et au contraire, ils ont choisi une neutralité bienveillante vis-à-vis de la Russie, mais aussi de facto de l'Iran. C'est cela qu'il faut constater. Donc les conséquences de la crise ukrainienne vont avoir des conséquences directes pour le Proche-Orient.
Merci encore. Monsieur le professeur d'Ortiguier, il nous reste 2 minutes justement. Alors, justement, sur les conséquences, conséquences de la crise ukrainienne sur le Proche-Orient, notamment sur l'affaire palestinienne.
Eh bien, en deux mots, disons, les difficultés que la Russie a rencontrées avec l'Occident et qu'elle a rencontrées, disons, dans son propre sein, dans sa sphère d'influence, brise pour toujours cet accord de 1947, je dis bien de 47, pas de 48, qui a fait que ce fut autrefois la Russie soviétique avec Andrei Gromyko qui a proposé la création de l'entité sioniste. Et alors ceci justement est brisé. Vous voyez, et c'est justement cette brisure qui est une victoire de la justice sur l'idéologie ou les illusions idéologiques. Voyez-vous, ça, cette période 47-48 est définitivement brisée, car elle était fondée sur un faux accord, ou disons, une sorte de coopération entre les deux grandes puissances qui sortaient de la guerre. Cette période d'après-guerre, à notre avis, est terminée aujourd'hui. Voyez-vous, cela se manifestera dans l'évolution de nombreux États. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'instant, à l'intérieur même de l'Europe. Oui, je crois que nous assistons à une nouvelle ère, à la destruction de ce qui a été artificiel, à la destruction d'un mensonge qui a été le mensonge, disons, depuis la fin du traité de Versailles, depuis 1919, bien sûr, de l'époque de l'éclaration de Balfour en 17, bien sûr, ça on le sait, mais surtout de l'après-guerre. Ce crime de l'après-guerre va être effacé par la volonté et aussi l'unité du peuple palestinien et de ceux qui sont autour de lui, car ce sont des gens qui sont, des peuples qui sont autour de lui en Orient, qui se considèrent justement, qui sont victimes de la même injustice, voyez-vous, et cela est comme une tempête, voyez-vous, que rien n'arrêtera. Et l'affaire ukrainienne, comme vous l'avez dit, monsieur le Conde-Condé, est une affaire qui, précisément, est un craquement de l'ordre mondial de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Merci.
Et ce craquement, il se manifeste aussi en Orient.
Monsieur le professeur Pierre Dertiguier, philosophe et politologue, Luc Michel, géopoliticien, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
Zoya Pirzad est née en 1952 à Abadan. Elle est la fille d'un père iranien d'origine russe, musulman, et d'une mère arménienne de confession chrétienne qui se convertit à l'islam. Elle fréquente l'école arménienne à Abadan, puis se marie à Téhéran. Zoya Pirzad est une autrice populaire en Iran et à l'étranger, où ses ouvrages sont traduits dans de nombreuses langues. Elle puise son inspiration dans la vie quotidienne et plus particulièrement celle des femmes qu'elle raconte dans un style sobre. Elle commence sa carrière d'écrivaine en traduisant en farsi des ouvrages comme Alice au pays des merveilles, The Sound of Jumping Cock ou un recueil de haïkus. Elle commence à écrire ses propres textes après la révolution iranienne de 1979. Elle publie trois recueils de nouvelles en 1991, 1997 et 1998. Comme tous les après-midi, est publiée en France en 2007 et décrit à travers trois nouvelles le quotidien sans histoire de femmes entre la maison, le mari et les enfants. Le goût âpre des kakis, son deuxième recueil de nouvelles, publié en 1997 et paru en France en 2009, évoque à travers cinq récits les façons différentes de considérer une même expérience à travers des personnages autonomes. Chaque histoire représente un cas de figure et possède ses propres codes stylistiques. Il présente une galerie de portraits, des tranches de vie parfois douloureuses, mais toujours décrites avec finesse. Le recueil obtient en 2009 le prix Courrier international du meilleur livre étranger. Son premier roman, Un jour avant Pâques, paraît en 1998-2009 pour la version française et raconte l'histoire d'une famille arménienne au bord de la mer Caspienne par la bouche d'un petit garçon que le roman suit à travers trois périodes de sa vie. L'enfance est dominée par le personnage de la mère, femme libre et aimante, discréditée par sa belle famille, une grande amie musulmane audacieuse et drôle, et l'école qui transmet une langue et une culture qu'aucun élève n'a connue. Plus tard, devenu père de famille, il voit sa fille aimer un non-arménien au désespoir de la famille rattrapée par les préjugés et encore plus tard, l'abri avec sa fille, la perte de sa femme, la nostalgie des années passées. Le roman « C'est moi qui éteins les lumières », publié en 2001 en Iran et en 2011 en France, connaît un gros succès. Il remporte 4 récompenses en Iran, dont le prix Hushang Golshiri, du meilleur roman de l'année. Il se déroule dans le quartier arménien d'Abadan et décrit la vie quotidienne de Clarisse, femme au foyer pour qui l'arrivée de nouveaux voisins rompt la monotonie quotidienne avec un élan amoureux qui la déstabilise avant de la laisser retourner à sa routine apparemment apaisée. Elle crée dans ce roman une incertitude par la défamiliarisation de la vie quotidienne et parvient à élaborer une langue en harmonie parfaite avec le thème et les personnages. On s'y fera, écrite en 2004, raconte la vie d'Orezou, iranienne de Téhéran, divorcée, élevant sa fille adolescente capricieuse et entretenant économiquement sa mère tyrannique. Femme indépendante et volontaire, elle gère l'agence immobilière de son père décédé et n'a que peu de temps à consacrer à sa propre vie. Sa rencontre avec Zarjou, un homme très différent d'elle, la confronte à ses doutes et ses peurs, mais lui apprend à mieux s'aimer elle-même. Les préoccupations et le langage simple et quotidien des personnages de Zoya Pirzad rendent ces récits accessibles au reste du monde, dans un souci de partage humaniste. Elle s'attache à écrire dans un style simple et sobre. Les livres de Zoya Pirzad sont de courts textes. Le récit est fragmenté. « Je suis une spécialiste du découpage », dit-elle. Elle lit et relit ses textes jusqu'à 14 fois, supprimant tout ce que lui apparaît superflu. J'ai la hantise d'ennuyer le lecteur. Si un de mes personnages parle trop, je lui rabats le caquet sans état d'âme. L'œuvre de Zoya Pirzad est traversée par l'image d'une femme regardant par la fenêtre. Elle observe la voisine d'à côté, la floraison d'un arbre, une rue enneigée. Cette fenêtre symbolise l'ouverture sur le monde, mais aussi le désir d'une autre vie. Ces personnages féminins sont en effet souvent soumis à la tyrannie d'un mari ou de leur famille. Pour Christophe Balaï, son traducteur en français, le succès de Pirzad réside dans cette affirmation calme et digne du moi féminin dans l'espace socioculturel iranien contemporain. Plusieurs voies narratives alternent dans les récits de Zoya Pirzad, chacune donnant son propre récit sur l'histoire des femmes en Iran, témoignant de leur situation sociale et familiale et faisant entendre plusieurs subjectivités. Zoya Pirzad est l'une des rares écrivaines iraniennes dont les œuvres ont toutes été traduites en français par Christophe Balaï. Ses romans sont également traduits en grec, anglais, norvégien, allemand, italien, chinois, turc, slovène, géorgien, polonais et japonais. Farideh Golbou est née en 1951. Adolescente, elle débute sa carrière dans le journalisme avec le magazine Ferdowsi, édité par Mahmoud Enayat. Pendant cette période, Golbou a résumé les romans d'auteurs bien connus, tels que Jack London et Honoré de Balzac. Elle a écrit son premier roman, La route aveugle, avant l'âge de 20 ans. Le roman était en fait une trilogie. Après cela, Golbou a commencé à étudier le journalisme à l'université de Téhéran et a passé de nombreuses années à enseigner la littérature persane en tant que professeur dans les lycées de Téhéran. À cette époque, elle a écrit 2 livres, Mansoulé et Abiané, ainsi qu'un manuel pour les médias de masse. Dans les années 1990, après plusieurs années d'activité dans le domaine du journalisme, elle commence à écrire des romans et de réécrire en prose les recueils de poèmes de l'écrivain classique iranien Nezami Ganjavi, tels que Leyli et Majnoun, Khosro et Shirin, Haft Pekar et Veys et Ramin. Farideh Golbou a gagné le prix Golden Pan Award pour le livre Hekayat-e Ruzegar. Les films Shirin de Abbas Kiarostami et La moitié cachée de Tahmin et Milani sont des adaptations respectivement des romans Khosro et Shirin et Après l'amour de Farideh Golbou.